Caillou dans la chaussure, bonjour. Aujourd'hui, des sorties à portée d'enfance en chanson avec Catherine Vincent et les Ogres de Barbac. Un concert avec Raoul Lay, une exposition Enfance de l'art et des rencontres d'auteurs, il y a Grine à Fos-sur-Mer par exemple, le tout dans des genres différents, nous y revenons en fin d'émission. Le cœur sonore du Caillou dans la chaussure, ce sont les retrouvailles avec le petit cinéma de Photokino. Nathalie Guimard, bonjour.
Bonjour Marie-Dominique, aujourd'hui partons pour les mondes imaginaires et fantastiques du maître de l'animation japonaise, Hayao Miyazaki.
Et tout de suite, un livre, un auteur, rencontre avec Ghislaine Herbera et Monsieur Sans-Tête aux éditions Mémo, ou bien Quand les masques tombent. Ghislaine Herbera, bonjour.
Bonjour.
Alors Ghislaine Herbera, vous êtes plasticienne et vous avez une expérience d'une dizaine d'années dans le milieu du théâtre. Vous avez réalisé des costumes, des marionnettes et des masques et vous avez créé la compagnie Noon.
Théâtre Noon.
Théâtre Noon en 2005, avec laquelle vous avez monté avec Pascal Faré un spectacle Hansel et Gretel. Puis vous êtes arrivée en littérature jeunesse avec un tout premier album, Monsieur Sans-Tête, paru aux éditions Mémo en janvier 2010. Alors Ghislaine Herbera, déjà ma première question, c'est de savoir comment avez-vous glissé du théâtre au livre ? Comment êtes-vous arrivée à Monsieur Sans-Tête ?
Alors un peu par hasard, puisque après mon premier spectacle, Hansel et Gretel, j'ai accepté un poste de bibliothécaire scolaire à mi-temps. Voilà, j'avais besoin d'argent et j'ai occupé ce poste un an et demi et ça m'a permis de me plonger, de m'immerger dans la littérature jeunesse, de les lire aux enfants, de partager ça. Et cette envie que j'avais depuis longtemps, mais que j'avais pas réalisée de faire mon propre livre, c'est réalisé à ce moment-là, puisque en parallèle à ce travail, j'ai mis en route ce projet de Monsieur Sans-Tête sur le coin d'une table, à la maison, sans trop savoir où j'allais au départ, parce que j'ai commencé à reproduire des masques que j'avais dans de nombreux catalogues à la maison, des masques que j'aimais. J'avais cette idée d'un petit bonhomme sans tête, de son essayage, mais j'avais pas l'histoire. Donc ça démarrait comme mon idée. Il s'est levé un matin et il lui fallait sa tête. Et je trouvais que le meilleur but quand même, c'était un rendez-vous amoureux. Ça, j'avais cette idée-là et j'avais un petit peu l'idée du masque double, mais je savais pas comment il allait arriver, ce masque. Voilà. Donc c'était un petit peu comme des gammes. Dès que j'avais un petit peu de temps, je dessinais des masques, des planches de tête et puis des planches de corps à part. Et puis les fonds sont arrivés, son espace, sa maison est arrivée bien après. Et le texte encore plus tard, plusieurs mois après l'avoir commencé, parce que je l'ai fait en plusieurs mois, une heure par-ci, deux heures par-là. Et au bout de 9 mois, réellement, j'avais le début, la fin, le milieu, et en gros, le livre était fait.
Alors je vous propose d'écouter ce fameux texte de Monsieur Sans-Tête.
Le jour se lève, monsieur aussi, il n'a qu'une idée en tête. Il me faut une tête bien faite, une qui m'aille comme un gant, pour réussir mon tête-à-tête, une belle tête d'amant. Car si ma tête ne me va pas, qu'elle est trop ronde, trop sombre, à peine trop longue, je ne me sens pas sûre de moi. Je doute, je deviens timide. Quand je suis timide, je rougis. Et quand je rougis, je me sens ridicule. Ça me vexe. Quand je suis vexée, rien à faire. Je boude, ça dure. Je boude et je suis grognon. Vraiment grognon. Alors là, ça monte, ça bouillonne. Je sens que ça déborde. Je vois rouge. Et si je vois rouge, rien ne va plus. Je dis n'importe quoi. N'importe quoi et n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, je fais aussi n'importe quoi. Mais après, je me calme. et j'ai honte. La honte, ça me rend triste, triste à pleurer, alors je pleure. Lorsque je pleure, je me sens seule. Seule, ça me fait peur. Quand j'ai trop peur, je crie. Si je crie trop, je me fatigue. Et quand je suis fatiguée, je n'ai plus envie de rien. Plus rien. Le vide. Je me sens bizarre. Je ne sais pas quoi faire. Et quand je ne sais pas quoi faire, eh bien, je ne fais rien. Absolument rien. Mais à force de ne rien faire, je m'ennuie. Je m'ennuie, alors je pense. Quand je pense à quelque chose, ça me fait penser à autre chose. D'une chose à l'autre, ça m'emmène ailleurs. Et quand je suis ailleurs, ça me rend curieux. Je veux voir plus loin. Alors j'imagine. Et quand j'imagine, je me sens libre. Libre et joyeux, ça me fait sourire. Quand je souris, je me trouve drôle, vraiment drôle. Ça me fait rire, je ris. Je ris. Quand je ris comme ça, je me sens bien. Je me sens léger. Toutes mes craintes s'envolent. Qu'importe alors la tête que j'ai, ronde ou bien carrée. Lorsque ma fiancée me sourit, ça me fait le cœur en fête. Et je n'ai plus qu'une envie, aimer, à en perdre la tête.
Monsieur sans tête en image, c'est un petit bonhomme à l'aise dans son corps, qui se dandine, qui sautille, qui s'agite au gré de sa séance d'essayage de masque. C'est une traversée des émotions, on vient de l'entendre, qui s'enchaînent et en lien les unes les autres. C'est ça qui est très joli, j'aime beaucoup ça. Et c'est un défilé de masques, donc, momentanément adopté par monsieur. Et vous tricotez donc avec l'expression des émotions, et les arts premiers. Donc pourquoi le choix du masque, donc le masque qui aurait plusieurs fonctions, on se cache derrière un masque, et en même temps le masque donne un visage, une identité, un visage, et là plus particulièrement autour des expressions de ce que le visage peut donner, enfin peut révéler des émotions intérieures. Comment avez-vous travaillé donc autour de ces masques, parce que ils ne sont pas de toutes pièces créées par vous-même, certains très probablement, mais surtout vous avez travaillé à partir de collections.
Absolument pas. Oui, j'en ai pas du tout créé.
D'accord.
C'était le projet de départ. J'avais envie de lui inventer des têtes. C'était même parti d'un texte qu'avait écrit Pascal Faré. C'était un ogre qui se reconstituait son visage tous les matins, qui était pas adapté à la jeunesse, qui était une sorte de conte cruel que j'aimais beaucoup et qu'il ne se décidait pas à l'adapter pour que je l'illustre. Et c'est venu de cette idée-là, l'idée de se fabriquer une tête tous les matins, une tête de circonstance. Et j'ai commencé par, dans mon cahier, en créer des masques. Et puis quand même, j'avais des catalogues de masques du monde, avec des masques magnifiques, que j'aimais beaucoup regarder justement avec mon fils, le plus petit, qui préférait regarder ces catalogues que les livres pour enfants. Et je me suis dit, c'est tellement riche ce qui existe, ce que les hommes ont fait dans le monde. Il faut absolument utiliser... je vais rien inventer du tout, je vais les reproduire. Et puis du coup cette idée d'aspect de documentaire du livre est née aussi quasi immédiatement. Je me suis dit que c'était aussi l'occasion d'en faire une sorte de petit catalogue de masques du monde, mais à la fois, j'avais pas envie que ce livre ne soit qu'un catalogue, un livre d'art pour enfants. J'avais envie qu'il y ait une histoire, qu'il y ait de l'émotion. J'ai essayé de trouver cet équilibre entre découverte de masques et d'ethnie, donc, et d'émotion, et de découvrir un petit personnage qui se pose des questions, qui doute et qui traverse comme ça un marabout bout de ficelle. Un tas d'émotions en l'espace de, je sais pas, quelques heures, une heure, une journée. Donc je n'en ai pas inventé, à part le dernier masque que j'ai retravaillé afin que le baiser, les deux profils soient lisibles. Je me suis inspirée d'un masque existant, qui est un masque BT du Gabon, qui appartenait à Zara, que j'ai découvert après l'avoir dessiné. Je l'ai vu en vrai à Paris, qui, je pense, fait partie de la collection Barbier Muller. Et je l'ai juste modifié, c'est indiqué dans le lexique, pour que ce baiser soit évident. Le baiser que moi je voyais dans ce masque soit plus évident.
Et donc une partie de ces masques-là sont visibles à Marseille, au musée des arts océaniens.
Il y a une superbe collection de masques mexicains en Mahoua, légués par M. Reichenbach. Et donc il y a une dizaine de masques mexicains dans ce livre qui sont visibles au Mahoua.
À la Vieille Charité.
Oui, à la Vieille Charité à Marseille.
Mmh. Alors ce petit bonhomme, j'avais envie que vous me parliez de ce corps qui bouge, qui se tord, qui part dans tous les sens. Il est particulièrement vivant, excité par le moment aussi qui se dessine. Il est dans l'attente et en même temps, il tient pas en place.
Oui, il commence par des postures assez maîtrisées, un petit peu coincées, même les mains à la taille. Et puis il s'agite. Et il se trouve que mon modèle était mon fils de 2 ans et demi à l'époque, d'où le ventre un peu dodu, les jambes un petit peu en X. Et j'ai fait les croquis au départ d'après lui. Et puis après, je lui ai inventé d'autres postures. Et puis certaines sont issues du coup aussi de danse orientale. Puis il saute. C'était des postures que, j'ai fait beaucoup de danse. Ça me venait naturellement. J'ai pas pris modèle après coup pour le faire bouger. Il s'est mis à bouger tout seul, en fait.
Donc ce livre-là, c'est aussi une invitation à créer ses propres masques, à continuer à inventer. Ça donne envie.
J'espère, j'aimerais bien. J'ai fait beaucoup d'ateliers d'art plastique avec les enfants et c'est vraiment un sujet, un thème, la fabrication de masques que j'aime beaucoup. Et notamment en s'inspirant des masques inuits, parce que sur ces masques inuits, tout autour, y a plein d'histoires à raconter. Ils sont souvent entourés de petits objets, de plumes, de bouts de bois dont les formes rappellent des animaux. Et c'est vraiment très, très intéressant de faire travailler les enfants autour d'un masque qui concentrerait un peu leur univers. Leur animal préféré, des objets qu'ils ont récoltés, des coquillages, des plumes. J'avais fait un atelier comme ça autour du masque inuit et c'était vraiment une très belle expérience.
Très productif.
Oui.
Oui, parce qu'en fait, c'est un atelier de bricolage aussi.
Complètement, complètement. De peinture, de récolte d'objets. C'est très complet. Très riche.
Bien, donc Monsieur Sans-Tête aux éditions Mémo, qui vient de paraître depuis sur les tables des librairies depuis le mois de janvier. Donc,
fin février.
Pardon, depuis fin février.
Une
information erronée, donc il est vraiment tout frais.
Oui,
sort de chez l'imprimeur. Et du coup, donc c'est votre premier livre.
Oui.
Donc une question, est-ce que vous avez d'autres projets encore du même style, ou est-ce que vous avez envie d'explorer d'autres pistes, d'autres modes d'expression pour un prochain ouvrage ou plusieurs?
J'ai d'autres projets qui sont pour certains faits, d'autres en cours et pas du tout sur le même mode, en tout cas pas aussi gros. Il n'y avait qu'une maison d'édition comme Mémo qui pouvait sortir un livre totalement hors norme. J'en étais consciente quand je l'ai fait, 120 pages. Ils ont fait un très très beau travail d'ailleurs, mais j'ai fabriqué par la suite des livres plus, on va dire, plus standard, d'une trentaine de pages. Donc il y aura, j'ai illustré aussi, sur la demande de Mémo, un très beau texte de Guia Risari, une auteure italienne. Il devrait sortir à l'automne 2010, s'appelle Le chat âme. J'ai réalisé un album pour tout petit qui s'appelle La poupée cacahuète, que Mémo souhaiterait éditer également. Mm-hmm. Et j'ai signé avec Didier Jeunesse aussi un album en cours, un peu complexe, parce qu'il y a une histoire dans l'histoire. Donc oui, j'explore des modes de narration très différents. Mais je commence toujours par les images et le texte arrive toujours après.
Donc, Ghislaine Herbera, une histoire à suivre.
J'espère.
Donc, Monsieur Sans-Tête, en tout cas, en attendant les prochains livres à venir, Monsieur Sans-Tête aux éditions Mémo, donc édition Mémo dont on a déjà beaucoup évoqué la ligne éditoriale et on a déjà parlé de plusieurs artistes avec Nathalie dans cette émission. Frédéric Bertrand, on y retrouve, vous allez côtoyer Olivier Douzoum, il y a aussi Anne Crozaz,
Aline Aon.
Aline Aon, voilà, donc une ligne éditoriale que nous apprécions. Et je voulais signaler la présence de Christine Moreau, donc éditrice, pour une conférence pour tout petits, Mémom, couleurs et matières pour les tout petits. Cette éditrice dit « Les éditions Mémo publient des livres d'artistes d'hier pour savoir d'où on vient et très contemporain pour savoir où on va ». On en reparlera en fin d'émission puisque ça se déroule à la médiathèque communale de Fosses-sur-Mer dans le cadre de la manifestation
« Lire et grandir ».
Merci. Ghislaine Herbera, je vous remercie beaucoup.
Merci
et au plaisir.
Merci.
Oh, this is the joke, Tidmoko, one was not me, Tingita, dog of Jindoindoin, Dosenjaya, Tatundatun, dog of Jindoindoin, Dosenjaya, Tatundatun, Boom, Baya. Boom, baya, boom, boom, baya,
oh. Le cœur plein de joie sous les étoiles en fête, danse Pitocha en chantant à tue-tête. L'avenir est évident dans les yeux de nos enfants. La liberté nous sourit sous le ciel de Mongolie. C'est boom, baya, boom, baya, boom, baya, plein. Étoiles en fête, le cœur plein de joie et plus rien ne l'arrête. Les enfants font la musique, le vent souffle la rythmique, lune et soleil au refrain, ensemble tape des mains. C'est Bombaya, Bombaya, Bombaya plein de joie.
C'était Bumbaya, un morceau extrait d'un album Pitocha au pays des mille collines, réalisé par les ogres de Barbac. Et ce morceau-là était interprété par des enfants mongols de l'orphelinat d'Oulan-Bator. C'est un livre CD qui est apparu en novembre 2009, avec un livret, avec un conte. Et je voulais juste signaler que l'association Pitocha pour un monde de sons a été créée en 2009 et elle a pour vocation de soutenir des projets autour de la musique dans les endroits où l'accès même à la musique est très difficile, donc partout dans le monde, auprès d'enfants, et notamment parce que les outils d'enregistrement et de diffusion manquent cruellement dans certains pays. Voilà, elle est ouverte aux dons, cette association. Elle est financée par la dotation automatique d'un euro pour chaque exemplaire vendu de Pitocha au pays des mille collines. Voilà, les ogres de Barbac, peut-être que vous connaissez déjà, ils ne chantent donc pas que pour les adultes. Et il y a donc deux albums de Pitocha et un troisième est en cours de préparation. On enchaîne tout de suite avec le petit cinéma de Photokino et on retrouve Nathalie Guimard.
Roar.
le petit cinéma.
Attention au départ. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Partons à la découverte de La Piuta, le château dans le ciel.
Hein? Mais qu'est-ce que c'est?
Le château dans le ciel, c'est le titre du prochain film du petit cinéma, le mercredi 7 avril 2010, à 10h, au cinéma Les Variétés. C'est un des premiers longs-métrages d'Hayao Miyazaki, le maître du dessin animé au Japon. Un film créé en 1986, mais sorti en salle en France seulement en 2003, après les succès de films du même réalisateur, comme Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke, ou encore Le voyage de Chihiro.
Bonjour, comment tu te sens? Oh, arrêtez, vous allez me faire tomber. Comment ça va? Moi, je m'appelle Pazou, j'habite tout seul dans cette cabane. Je leur donne à manger après avoir joué. Oh, je préfère ça. Apparemment, tu es bien un être humain. Je devrais pas te le dire, mais j'avais peur que tu sois un ange tombé du ciel.
Merci de m'avoir sauvé la vie, en tout cas. Au fait, moi, je m'appelle Chihita.
Ah oui, Chihita, c'est joli comme nom. Mais alors, comment tu as fait? Comment est-ce que tu es tombé du ciel?
C'est vrai, ça. Comment ça se fait que je sois encore en vie? Je suis tombée d'une forteresse volante.
Le jeune Pazou travaille dans une mine. Un soir, il aperçoit dans le ciel une étrange lueur qui se rapproche doucement de la terre. C'est en fait une jeune fille, Chihita, endormie, qui atterrit délicatement dans ses bras. Chihita est tombée d'une forteresse volante pour échapper à ceux qui voulaient voler son collier et son précieux cristal. Un cristal qui a le pouvoir de faire voler son propriétaire et même de réveiller les pierres.
Voilà, allez, buvez.
Merci, merci beaucoup. Vous avez toujours vécu sous la terre, grand-père?
Bien sûr que non. Mais hier soir, les pierres ont commencé à s'agiter. Dans ces moments-là, j'aime venir sous terre pour les écouter.
C'est vrai, les rochers parlent.
On les entend à peine, ils chuchotent. Ce ne sont pas des roches comme les autres. Elles contiennent des pierres volantes.
Des pierres volantes?
C'est un cristal de pierres volantes que Chihita porte en collier. Il se transmet dans sa famille depuis des générations. Et Chihita sait par sa grand-mère que cette pierre a des pouvoirs puissants et ancestraux.
Cette pierre possède un incroyable pouvoir.
Il paraît même qu'autrefois, seuls les habitants de la Piuta savaient transformer cette pierre en cristal.
Les habitants de la Piuta?
Et c'est comme ça qu'ils avaient réussi à faire voler une île gigantesque.
La Piuta existe donc vraiment? C'était vrai, je le savais! Grand-père, est-ce que cette île existe toujours?
Quand j'étais petit, mon grand-père me disait que les rochers s'agitaient lorsque la Piuta passait juste au-dessus de la montagne.
Super! Il suffirait de monter dans le ciel pour découvrir la Piuta!
La Piuta, une mystérieuse et légendaire cité volante, dont Pazou a beaucoup entendu parler. Son père, pilote, était passionné par l'histoire de la Piuta. Pazou en rêve depuis qu'il est tout petit, comme Hayao Miyazaki, qui a lu Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift, et plus particulièrement le troisième chapitre, Voyage à la Piuta, l'île volante. Miyazaki aussi avait un papa qui construisait des avions, c'est pourquoi on trouve tant de machines volantes dans ses films. Dès son plus jeune âge, il en dessine de toutes sortes. Un élément autobiographique que l'on retrouve dans le film. Pazou a orné sa cabane d'images d'avions, et il fabrique lui-même des maquettes à ses heures perdues.
Le petit cinéma.
Les machines volantes imaginées par Miyazaki évoquent les débuts de l'aviation et les voyages extraordinaires dépeints par Jules Verne. Ce sont des cerfs volants, des constructions ingénieuses et légères aux allures de libellules, ou des vaisseaux gigantesques, véritables cités légendaires. Dans ses films, Miyazaki fait s'envoler des aventuriers au grand cœur. Miyazaki s'inspire donc de grands auteurs dans ses films. Et il a aussi dû être très impressionné par Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud. Il lui rend hommage avec sa cité verticale, moderne et vertigineuse, et ses robots construits par l'homme pour détruire, mais néanmoins capables d'aimer. Ses sources d'inspiration proviennent aussi de la culture populaire. Le film reprend des éléments du conte, comme le talisman doté de pouvoirs magiques, les enfants abandonnés confrontés à de terribles épreuves, les personnages qui les aident ou les persécutent. Ainsi, dans Le Château dans le ciel, le personnage de Dora, chef des pirates, a pour modèle Baba Yaga, la sorcière ogresse des contes russes. Dora est en effet fort laide et mange d'une manière goulue. Souvent, dans les films du Miyazaki, comme dans les contes, ce sont les anciens qui transmettent aux enfants des légendes, des interdits et des formules magiques, visant à protéger l'humanité et sa planète.
Le petit cinéma. Un caillou dans la chaussure.
Hayao Miyazaki fait ses débuts au célèbre studio d'animation japonais Toei en tant que dessinateur intervalliste, plus précisément. Il y fait la connaissance de Isao Takahata en contribuant au premier film du réalisateur, Horus, le prince du soleil, un film de 1968 diffusé au petit cinéma en 2005. Ensemble, Takahata et Miyazaki développent d'autres projets pour d'autres sociétés de production, comme le feuilleton animé Heidi, avant de fonder le fameux studio Ghibli en 1985, qui produira Le Château dans le ciel en 1986. Depuis, de nombreux films sont sortis de ces studios.
Et en 2001, le musée Ghibli a ouvert ses portes dans la banlieue de Tokyo. Mais attention, pensez à réserver 3 mois à l'avance.
Le petit cinéma.
Le nom de Ghibli vient de l'italien. Il désigne un vent chaud provenant du Sahara. Le vent inspire beaucoup Miyazaki. Il aimerait certainement Marseille. En attendant de le recevoir un jour ici, si vous n'avez jamais vu de film de Miyazaki, précipitez-vous au petit cinéma, bien sûr, ou dans votre vidéoclub, ou à la médiathèque la plus proche. Faites connaissance avec Porco Rosso, un cochon aviateur à qui Miyazaki a prêté ses traits et sa moustache. Avec Totoro, mon héros, esprit de la forêt. On l'entend dans le générique du petit cinéma. Avec Kiki, la petite sorcière, Chihiro, Nausicaa et Mononoke, deux jeunes héroïnes qui n'ont pas froid aux yeux. Avec Ponyo, la princesse poisson rouge et beaucoup d'autres créatures fantastiques. Traverser des paysages extraordinaires et des forêts magiques, embarquer sur un château ambulant, débarquer sur Laputa.
Il veut qu'on le suive!
Tu comprends ce qu'il dit?
Non, je devine!
Oh!
Une ville engloutie! Qu'on était entré dans un bâtiment. Hein? Et regarde comme le ciel est bizarre. Cette ville devait être très belle et très moderne, mais je me demande ce qui a pu se passer.
Les mondes imaginaires de Miyazaki rendent hommage à la beauté de la nature et à son respect, dénoncent les guerres et la cupidité de l'homme. Ces films changent notre regard sur notre époque, nous font rêver. Ah, si on pouvait changer le monde!
Tu as vu ces racines? Au fait, tu as appris à grimper aux arbres? C'est sans danger. Épouvantable. Azu, si jamais il monte jusqu'au jardin. Il faut à tout prix qu'on récupère la pierre. C'est le seul moyen, la pierre a le pouvoir de protéger Laputa. Oh, tu as vu, le banc de nuages a fini par se dissiper. C'est grâce à ça qu'ils ont réussi à se poser. Tu crois que c'est à cause de ma formule magique? Non, Mouska avait dit que le sceau se briserait, c'est sûrement ce qui vient de se passer. C'est pour ça que le royaume s'est réveillé, pour accueillir le propriétaire du cristal magique. Oui, mais malheureusement, c'est Mouska qui va devenir le roi. Et ce sera encore pire que maintenant. Peut-être, mais si je retrouvais un jour la pierre, comment est-ce que je saurais ce que je dois faire? À moins que la formule... La formule interdite? Non, il ne faut pas, oublie-la.
Pour savoir si Pazu et Chiita parviendront à sauver la cité légendaire de Laputa, Venez au cinéma Les Variétés, le premier mercredi du mois d'avril, comme chaque mois, c'est le jour du petit cinéma de Photokino, à 10h. Et il ne reste déjà plus que quelques places pour l'atelier Mangaka, qui précédera la séance pour les plus de 7 ans, comme Hayao Miyazaki, créateur du manga Nausicaa, dont il fera un autre magnifique film en 1984, devenez-vous aussi mangaka, c'est-à-dire auteur de bandes dessinées. Renseignements auprès de Photokino au 09 50 38 41 68. Un extrait d'un autre film de Miyazaki, Le Château ambulant, mais aussi un clin d'œil à Joe Hisaishi, compositeur fidèle des films de Miyazaki et de Kitano. Ah, je vous envie si vous découvrez les films de Miyazaki pour la première fois. Rendez-vous le mois prochain avec La boutique des pandas, trois courts-métrages d'animation chinois. À bientôt.
Alors, côté sortie aujourd'hui, musique, chant, concert, exposition, rencontre d'auteurs. Alors, une première chose, La mort marraine, c'est un spectacle, d'après le conte La mort marraine des frères Grimm, un conte en musique par l'ensemble Télémaque. Le texte et la musique ont été réalisés par Raoul Lay. Alors, l'ensemble Télémaque, se sont produits dans de nombreux lieux, de nombreuses scènes. C'est une compagnie musicale qui aime, qui affectionne les métissages avec les autres arts de la scène, des musiques innovantes. Voilà, moi ça m'intriguait, ça me donne envie d'y aller, donc je vous en parle. L'ensemble Télémaque, La mort marraine, alors peut-être quelques mots aussi, le début du conte. Un enfant naît alors que sa mère meurt en couche. Orphelin, il rencontre un jour la mort. Elle qui est juste et qui n'épargne ni le riche, ni le pauvre, ni le faible, deviendra la marraine de cet enfant. En mère tendre, elle fera de lui un grand médecin, mais il trahira la confiance de sa protectrice. Saura-t-elle lui pardonner ? La mort marraine, donc ça se passe au théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence et la date du spectacle c'est exactement le jeudi 25 mars à 14h30 pour des scolaires et le vendredi 26 mars à 19h pour toute réservation et renseignement 08 20 000 422. On enchaîne avec un CD qui vient de sortir en scène. Et Gretel, un conte musical de Catherine Vincent, Nathalie.
Eh oui, Catherine Vincent, nous les avons déjà accueillies dans le caillou,
dans
la chaussure, en live même. Catherine Vincent, c'est un duo folk-pop formé par Catherine Estrade et Vincent Comaret. Ils se sont rencontrés à Paris, mais c'est à Damas, en Syrie, où ils ont vécu 4 ans, qu'ils ont commencé à faire de la musique ensemble. Catherine et Vincent chantent en français, espagnol, arabe et anglais. Et Catherine et Vincent ont adapté le célèbre conte Hansel et Gretel. Alors je crois qu'on avait déjà passé un extrait dans l'émission,
parce
qu'il faut savoir qu'ils avaient mixé déjà une version il y a quelques années. Et puis là,
sans recherche d'un label qui accepterait de sortir. Donc c'est un vrai CD.
Un vrai CD distribué dans le commerce. Hansel et Gretel avec l'illustration d'Audrey Panutti. Et alors sur cette adaptation sonore, Catherine Vincent chante. Alors plus que raconter l'histoire, mm-hmm. c'est un conte enchanté, un peu à la façon de Jacques Demy. D'ailleurs, ils le citent mm-hmm. sur leur plaquette, avec les voix de Catherine et Vincent, mais aussi d'Alberta et Odile, dans le rôle d'Ansel et Gretel. Une version très très belle, moi je trouve, je l'ai vue en direct à la Baleine qui divague au Théâtre du Comte. Et avec de l'émotion, de l'humour, et voilà, beaucoup d'intelligence. C'est bien pour les enfants.
Ils se réveillèrent dans la nuit noire. Gretel se mit à pleurer.
Comment allons-nous faire pour sortir de la forêt ?
Attends que la lune se lève et tu verras. Nous retrouverons notre chemin.
Au clair de la lune, quand elle brilla bien, Ansel se leva et prit Gretel par la main. Au clair de la lune, c'est un jeu d'enfant de trouver par terre les petits cailloux blancs.
Au clair de la lune, les petits diamants,
les menèrent tout droit jusqu'à leurs parents. Au clair de la lune, ils furent mal accueillis. Ils frappèrent à la porte
et la marâtre leur dit:
méchants enfants, vilains garnements, dormir si longtemps dans la forêt, mais je croyais que vous n'alliez jamais revenir.
Mes chers petits, dit le bûcheron, je suis si content de vous revoir à la maison. On sentait dans sa voix qu'il était sincère. Il regrettait de les avoir abandonnés. Il regrettait de les avoir abandonnés. Il regrettait de les avoir abandonnés.
Voilà, c'était un extrait d'Ansel et Gretel, un conte musical de Catherine Vincent, sorti chez Musicast, donc le 15 mars 2010, et que vous pouvez trouver dans tout, chez tous les bons vendeurs de disques de Marseille. Et d'ailleurs, si vous voulez aussi mieux connaître le groupe Catherine Vincent, il y a un site sur myspace.com/Catherine Vincent, et c'est très beau, alors allez-y.
Un caillou dans la chaussure.
Pour continuer à sortir, se promener, lire et grandir, une manifestation samedi 27 mars pour tout public, donc à Fos-sur-Mer, au Centre culturel et au foyer des seniors. Littérature jeunesse, théâtre, atelier, exposition, cinéma, conte, un rendez-vous annuel. Donc moi je voulais attirer votre attention sur le vendredi 26 à la médiathèque intercommunale, comme je le disais tout à l'heure, les éditions Mémo, on en a parlé en début d'émission avec Ghislaine Herbera, et Christine Moreau, éditrice, sera là pour cette journée le vendredi 26 mars pour parler justement de cette ligne éditoriale singulière qui met à disposition des livres d'artistes pour les enfants et les tout-petits dès le premier âge. Voilà. Pour continuer donc sur Lire et grandir, il y a aussi une exposition. On va profiter, Ghislaine Herbera est restée avec nous jusqu'au bout de l'émission et elle connaît bien Ilia Green, puisqu'il y a donc une exposition dans le cadre de cette manifestation, donc Ghislaine.
Oui, à ne pas manquer la veille, le jeudi 25 mars à 18h30, le vernissage de l'exposition Carnaval d'Ilia, d'une centaine de dessins d'Ilia Green, des dessins issus de ses dessins pour la littérature jeunesse qu'elle a fait, mais aussi beaucoup de dessins qu'elle produit en tant que plasticienne, qu'elle réalise, qui sont très très beaux, j'en ai vu certains. Et voilà, à ne pas manquer, cette exposition durera du 26 mars au 18 avril, le vernissage est jeudi 25.
Et ça se passe à quel endroit?
Ah oui, c'est... pardon, au Centre intercommunal d'art contemporain d'Istres.
Merci Ghislaine. Nathalie, lire et grandir, quoi d'autre?
Lire et grandir, eh bien, il y a plusieurs autres expositions avec Philippe Corentin, Mireille Lou, du théâtre aussi. Donc là, le théâtre, c'est le 24 mars cet après-midi et samedi à 11h. Voyage d'un courant d'air, un spectacle à partir de 1 an. Alors là, il va y avoir du monde intéressé. Et puis, bien, Lire et Grandir, ce sont de nombreux ateliers, animations en lien avec l'association Ville Lecture, des médiatrices du livre, en lien avec des libraires et des associations. J'en serai au nom de Photokino. Donc des ateliers autour du cinéma et du livre, avec aussi donc une programmation de films par le cinéma L'Odyssée à Fosse, dont j'aime beaucoup la programmation. Il y aura la boutique des pandas, des courts-métrages donc d'animation chinois, dont je parlerai dans le prochain Petit Cinéma. L'ours et le magicien, des films laitons. Voilà, donc un rendez-vous à ne pas manquer, surtout ce mercredi, à partir donc ce mercredi, cet après-midi, et puis samedi prochain et dimanche. Voilà. À Fosse et à Istres pour l'exposition d'Ilia Green, à ne pas manquer.
Vous écoutez Radio Grenouille.
Une exposition, l'enfance de l'art, donc depuis le 15 janvier et ce jusqu'au 4 avril 2010. Une exposition donc à la galerie du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, hôtel de Castillon, je ne sais pas que ça s'appelait comme ça, donc sur 21 bis cours Mirabeau à Aix-en-Provence. Alors l'enfance est un thème artistique majeur dans l'histoire de l'art. Art et enfance apparaissent aujourd'hui comme indissociables. Preuve en est l'existence de cette émission. On n'arrête pas de tricoter avec les artistes, plasticiens, cinéastes autour de l'enfance. Et donc, au cœur de, donc, dans cette exposition, l'enfance est présentée comme un territoire mystérieux et fascinant et duquel l'inventivité et l'imagination des artistes est nourrie. Et donc, pour nous présenter des objets, des peintures, des crayonnés, des montages, aussi du bricolage, notion aussi qu'on affectionne ici pour exprimer donc des points de vue sur l'enfance. Alors des artistes comme André Masson, Hervé Télémaque, je ne les connaissais pas tous, j'ai fait des découvertes. Nathalie, tu as visité aussi l'exposition.
Oui. Avec les magnifiques dessins d'Olivier Debré,
oui.
Issus de Perroco le perroquet, mm-hmm. Édité par André Dimanche,
tout à fait.
Le commissaire de l'exposition, éditeur marseillais. Les peintures et un très beau carnet de Jean-Jacques Ceccarelli.
Oui.
Tu as parlé d'André Masson, oui, ses coloriages, oui.
Je l'ai à peine évoqué, j'ai juste dit son nom, oui. Donc André Masson, c'est essentiellement un carnet de coloriage qui est présenté.
Qu'il a fait pour ses petits-enfants.
Mm-hmm.
Donc je crois que même dans, si je me souviens bien, il y a certains coloriages coloriés vraiment par ses petits-enfants dans l'exposition. Il y a des très beaux jouets aussi, un peu de façon art brut, à la façon d'art brut, une petite cabane à l'entrée qui évoquerait le monde d'Alice. Mm-hmm. Et puis, dans la salle de projection, le film Peau d'âne de mm-hmm. Jacques Demy, on y revient. Mm-hmm. Un film enchanté qui est projeté en entier 3 fois par jour à 10h, 14h15 et 16h, du mardi au dimanche. La galerie est fermée le lundi.
Merci Nathalie. Un caillou dans la chaussure, l'émission est terminée. Merci à Sébastien Gély à la technique. Merci à Nathalie Guimard pour son accompagnement. Merci à Ghislaine Herbera qui est restée jusqu'à la fin de l'émission en notre compagnie. Prochain rendez-vous le mercredi 28 avril à 11h sur Radio Grenouille. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter les émissions. Les archives sonores sont sur la page de l'émission sur le site de Radio Grenouille www.grenouille888.org. Merci à tous, à très bientôt.
À bientôt.